Les 4 tops pour nous signaler qu'il est 7h sur France Inter. Le journal, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Le mouvement social contre la réforme des retraites entre ce matin dans son 24e jour avec à nouveau d'importantes perturbations à prévoir sur les rails. Nous irons à Paris-Bercy dès le début de ce journal. Les autres titres, Alexis.
3 ans de prison ferme pour un gilet jaune lorrain. Il y a un an, il avait blessé 3 policiers avec un engin explosif artisanal. Des milliers de déplacés en Syrie pour fuir les bombes de l'armée turque. Ankara tente toujours de chasser les forces du Kurdistan syrien de la zone frontalière avec la Turquie. France Inter aime la griffe de Tiger Tigre. Ce batteur issu du rock alternatif publie son premier album solo intitulé Grrr, tout un programme. Et puis votre invité à 8h20, Eric.
Ce sera Pierre-Emmanuel Beigny, le maire d'une commune de 1800 habitants. Il ne veut pas se représenter aux prochaines municipales et il explique pourquoi dans son livre « Chers administrés, si vous saviez ».
France Inter.
Plusieurs manifestations organisées ce samedi contre la réforme des retraites. À Paris, le cortège s'élancera à 13h de la gare du Nord. Le trafic ferroviaire, lui, s'annonce à nouveau très perturbé. La SNCF annonce pour ce samedi 6 TGV sur 10, 3 TER sur 10 et 1 Transilien sur 5. 800 000 voyageurs ont une réservation pour ce week-end de milieu de vacances scolaires de Noël. Reportage en gare de Paris-Bercy, signé Sébastien Sabiron.
Affluence plutôt modeste pour un soir de grand départ. Sur les bornes automatiques, des écriteaux précisent que tous les TER sont complets. Ariane, de retour de vacances, est déjà fatiguée.
Je viens de Bretagne, donc c'était un peu compliqué. J'ai changé de train. Moi, j'en ai marre des grèves. Je travaillais avec des gens qui viennent de Paris jusqu'à Nevers et j'ai plein d'annulations dans mon travail. 3-4 jours, ça va. Une semaine, ça va. Bon, voilà, ça suffit, quoi.
Un peu plus loin, la gare routière de Bercy est prise d'assaut. Flixbus, Blablabus comme solution de substitution. 15 heures de route pour cette jeune femme et sa mère.
On a dû faire Aurillac, Brive-la-Gaillarde, Paris, Paris-Lille.
C'est un peu difficile parfois à vivre parce que c'est long. Un jour aller, un jour retour, donc ça diminue les vacances aussi. Et après, la fatigue pour aller travailler finalement.
Compliqué lorsque l'on travaille le lendemain, à l'image de Douglas, restaurateur à Clermont-Ferrand de retour de Londres.
Quand il y a la manifestation à Clermont, mon restaurant est plein. Mais j'ai complètement raté mon train. Et puis le deuxième train a été annulé. Je vais prendre un blablabus pour remplacer le train. Nuit blanche, c'est le Brexit suprême.
Et les Britanniques n'ont pas le monopole du flegme, pas de cohue, pas de tension pour se chasser croisé, même si une certaine lassitude se devine sur les visages.
Une grève qui dure à la SNCF et à la RATP, mais cette contestation contre la réforme des retraites est aussi très suivie, on en parle moins, par les danseurs, les musiciens et les choristes de l'Opéra de Paris. Depuis début décembre, 45 spectacles ont dû être annulés à l'Opéra Bastille et à Garnier, une perte de 8 millions d'euros selon la direction. Le gouvernement a évoqué une clause du grand-père pour protéger le statut des artistes d'opéra à Paris. Mais pour Alexandre Carniato, danseur et délégué CGT, cette mesure serait de toute façon insuffisante.
Faire grève, c'est pas du tout dans nos gènes. On a répété très durement pour faire Raymonda ou Le Parc. C'était beaucoup de sacrifices. Les deux sont à chaque fois annulés. C'est difficile peut-être à croire, mais honnêtement, on est les premiers, les plus embêtés de se dire qu'on ne va pas pouvoir le donner là. Honnêtement, ça nous met la rate au courbouillon quand même.
Cette clause du grand-père qui est proposée simplement pour le ballet de Paris, c'est insuffisant.
C'est complètement injuste. C'est-à-dire que maintenant, tous les danseurs sont protégés au sein de la maison, auront l'ancienne retraite. Mais qu'est-ce qu'on va laisser pour la génération d'après? C'est toi, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, tu seras très heureux, on ne touche pas à toi. Mais pour celle de la génération d'après, elle ne sera pas respectée. Alors, s'il n'y a aucune réaction, on ne lâchera pas. Pour nous, ça y va de la survie de l'institution.
Des propos recueillis par Fanny Oyer.
Un gilet jaune de Lorraine a été condamné hier soir à 3 ans de prison ferme.
Cet homme de 34 ans a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Nancy pour violence contre des policiers. L'affaire remonte au 22 décembre 2018. C'était lors de l'acte 6 du mouvement des gilets jaunes. Lucas Valdener a assisté au procès pour France Inter.
Au cœur de toutes les attentions hier, cette bombe artisanale appelée pipe bomb, un tube de métal rempli de poudre avec une mèche à l'extrémité. Alors tout l'enjeu de ce procès était de savoir si cet engin avait bien été fabriqué et lancé par l'accusé. Lui nie tout en bloc, mais il reconnaît avoir transporté 2 autres engins du même type dans son sac à dos lors de son interpellation le samedi suivant. Pendant l'audience, on apprend que des vidéos ont été enregistrées sur son portable quelques jours avant les manifestations en question. Des vidéos où on le voit fois testé des explosifs en pleine forêt. C'était pour une expérience, c'est tout, répond l'accusé. Ces engins, je les ai achetés à un ami chasseur. L'idée, c'était de faire du bruit dans le cortège, pas plus. Peu de temps après, le policier blessé au coude se lève. Nous ne sommes pas là pour embêter les gilets jaunes, mais bien pour protéger. Et si c'est bien lui qui a fait ça, je veux qu'il nous dise pourquoi. Question qui est restée sans réponse. L'accusé a décidé de rester silencieux jusqu'à la fin.
Le soulagement en Corse du Sud. Après 6 jours de fermeture, l'aéroport d'Ajaccio a pu rouvrir hier soir. Depuis samedi dernier, la piste d'atterrissage était inondée. Le trafic devrait être normal aujourd'hui. On y revient dans le journal de 7h30.
En Syrie, l'offensive turque lancée il y a 2 mois a toujours des conséquences dramatiques pour la population.
Oui, l'opération Source de paix lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie a pour objectif de chasser les soldats kurdes de la zone frontalière. Mais si les combats sont à l'arrêt ou presque, 4000 km² de territoire syrien sont désormais occupés par des milices soutenues par l'armée turque. Les habitants qui peuplaient cette zone frontalière ont dû quitter leurs terres et trouver refuge dans des camps de déplacés. Le reportage de Noé Pignède.
C'est un camp de fortune au milieu d'un champ boueux, des centaines de tentes blanches où s'entassent les familles de déplacés. Nous sommes à une 50aine de kilomètres de la ligne de front. 4700 personnes vivent ici depuis 2 mois, sans eau courante ni électricité. Aïcha Sultan fuit son village sous les bombardements de l'aviation turque.
Tout le monde est parti, nous avons fui sous les balles et les bombes avec nos bêtes et nos enfants. Maintenant, nous ne pouvons plus rentrer. On nous a dit que les milices des Turcs nous avaient volé notre maison et tout ce que nous avions.
Un peu plus loin, un vieil homme nous accueille dans sa tente et nous invite à boire le thé. Son village est lui aussi occupé par la Turquie, mais il est parvenu à y retourner à plusieurs reprises à l'aide de passeurs.
Si je vous dis comment je m'appelle, ils me couperont la tête. Car malgré l'occupation des milices turques, je suis retourné plusieurs fois dans ma maison, en secret. Mais ils ont tout volé. Il ne me reste que les murs. Ces gens-là sont juste venus pour nous piller.
Selon les autorités kurdes, l'offensive turque dans le nord-est syrien il y a 2 mois a provoqué près de 200 000 déplacés. Des civils kurdes, arabes et chrétiens qui ont fui les combats et qui refusent désormais de retourner vivre dans une région où Ankara fait la loi. Au Kurdistan syrien, Noé Pignède, RFI pour France Inter.
Au Chili, de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Cette nuit, plusieurs milliers de protestataires s'étaient rassemblés dans le centre de la capitale, Santiago. Depuis le début du mouvement social en octobre, le bilan de la répression est de 26 morts et plusieurs milliers de blessés. La pop culture raffole des onomatopées. Antoine Decaune nous le confirme tous les jours sur Inter. Il y avait déjà le film R réalisé par Alain Chabat. Il y a maintenant donc Gr, un disque signé Tiger Tigre. Gr est le premier album solo du batteur de Pony Hawks. Tiger Tigre propose ici une musique instrumentale très inspirée par le 7e art. De quoi faire rugir de plaisir Mathieu Culeron. Tiger Tigre, alias Vincent Tégère, est un batteur-producteur français qui a notamment réalisé des disques pour Oxmo Puccino, Tony Allen, le batteur de Fela, et plusieurs titres pour le groupe anglais Falls. Il a également accompagné en tournée Feist, Sébastien Tellier ou encore Alain Souchon. Ses talents l'ont également amené à jouer sur les albums de Charlotte Gainsbourg ou Kerenan. Son premier album s'appelle Grrr, un disque instrumental qui s'inspire librement de compositeurs de musique de film, comme par exemple François de Roubaix. Tiger Tigre explore également les univers asiatiques, africains, un patchwork musical réjouissant et singulier, un peu comme une bande originale de films érotiques, mais de luxe. Chaque live de Tiger Tigre est un happening, humour au 12e degré et virtuosité font de cet artiste l'un des grands espoirs de l'année 2020. Et à 7h09, je rends le micro à un autre batteur de grand talent, Eric Delvaux.
Merci. Rien de comparable avec le batteur de Pony Hawks, Tiger Tigre, pour son premier album solo. Merci Alexis de Meyer.
Il n'est pas que batteur, d'ailleurs, il joue du piano aussi.
Bien sûr, bien sûr. Debout. Ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Jean-Michel Golinski pour la météo.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
On espérait un peu de soleil, mais il y a tout de même pas mal de gris encore, Jean-Michel Golinski. Du gris à venir aussi.
Ah, tout à fait, Eric, avec un ciel souvent chargé en ce moment, parfois même doublé de nuages bas et de brouillard, en particulier dans le Val-de-Saône et dans le quart sud-ouest. Alors en journée, le léger vent autour de la Méditerranée va permettre un bon ensoleillement, avec tout de même un faible risque d'ondées à signaler en cours d'après-midi sur l'ouest de la Corse. Mais sur les autres régions, l'évolution vers l'éclaircie sera vraiment très aléatoire, avec souvent la persistance du gris, notamment vers le Val-de-Saône, de la Manche au centre Val-de-Loire, au sud de la Garonne, et dans les vallées alsaciennes, avec des températures qui vont naturellement évoluer au gré de l'ensoleillement, avec 3 à 6 degrés pour les maximales sous les nuages bas, et de 8 à 14 du nord au sud sous les éclaircies.